Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous allons aborder trois sujets. Le premier sujet étant un livre qui s'appelle « Les artistes et le textile » qui a été publié l'année dernière aux Presses du Réel et qui est signé par Anne-Marie Minella et Jean-Yves Bosseur qui sont avec nous dans le studio. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et donc, votre livre recoupe plus ou moins 330 artistes. Oui, non ?
Oui, oui, mais c'est évidemment pas le nombre qui importe. Si, enfin, il est important parce qu'on a voulu donner un panorama aussi large et varié que possible pour montrer un peu justement toute la richesse de ce matériau. Mais on a bien évidemment fait une sélection considérant que les artistes qu'on a retenus étaient... était de qualité esthétique et d'une recherche personnelle qui nous convenait.
Et donc, il s'ouvre par les artistes des avant-gardes du début du XXe siècle, comme Solnea Delaunay ou Sophie Tauber-Harpe.
Oui, alors là, je vais passer la parole à Jean-Yves, le co-auteur. Je voulais juste un instant attirer l'attention sur le titre, parce qu'on a fait attention justement à montrer qu'on ne rentre pas dans le livre par le médium, c'est-à-dire le fil ou le textile, et que ce n'est pas un ouvrage technique, mais que ce qui nous importait, c'était la démarche artistique des artistes qu'on a sélectionnés et quel sens ce matériau prenait dans leurs propos. Voilà, donc on part un peu, on va dire, de la signification de l'œuvre, de la démarche de l'artiste, et on voit comment le fil, avec ses qualités propres, vient étayer cette démarche. C'était très important pour nous.
Monsieur Bossard.
Oui, effectivement, la première partie du livre est consacrée donc aux avant-gardes et à des artistes qui ont vraiment donné une impulsion décisive à cette créativité qu'on peut obtenir à partir des moyens textiles et aussi du dépassement entre artisanat et art. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fécond. Et donc, effectivement, avec des artistes comme Solnea Delaunay, comme Sophie Tauber, on atteint vraiment une dimension esthétique qui est totalement renouvelée.
Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que de Dada à Fluxus, il y a de l'utilisation du textile.
Oui, absolument.
On finit avec Buzz, par exemple.
Le feutre chez Boyce.
C'est très présent.
Oui, c'est très présent. Puis aussi, par exemple, dans le mouvement support-surface, il y a tout un travail sur toile, sur le support.
Évidemment. Noël Dola est encore en activité, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
À Nice. Et il y a... On peut aussi donc le pop avec Oldenburg, les matières molles. Là, il y avait un très bon livre sur la sculpture molle.
Oui, absolument. Absolument.
Je me permets d'ajouter que c'était cette partie sur le 20e, même fin 19e, début du 20e avec des pionniers était très importante parce que si on voit que les artistes textiles sont de plus en plus reconnus dans le domaine des beaux-arts, ce qui n'est pas évident depuis le début du siècle, en fait on a bien voulu montrer qu'avant il y a toute une histoire de ce fil auprès des artistes des avant-gardes diverses et variées, comme Jean-Yves vient de rappeler quelques noms, et que les artistes textiles ne sont pas sortis de l'ombre comme ça au début du XXIe siècle, même si il y a un engouement pour ce médium dans un paysage artistique où l'art doit être métissé, doit montrer une certaine égalité femmes-hommes, parce que ça tombe bien, effectivement, quand on parle du fil ou du tissu, bien évidemment, il y a quand même une majorité de femmes. Donc, tous ces éléments sociologico-politiques qui font surgir le fil depuis le XXIe siècle, c'est bien, mais Jean-Yves a voulu montrer qu'il y a une large antériorité dans le 20e. Voilà,
mais
ça, c'était important.
On va voir dans l'art conceptuel, par exemple, un couple comme Christian Boltanski et Annette Messagier, tous les deux vont utiliser du textile. Eva S, c'était éblouissant, par exemple, l'exposition. Bon, il y avait aussi du plastique. Louise Bourgeois, bien sûr. Mais Eva S, il y avait aussi du plastique, du goudron. Enfin, sortir des matériaux traditionnels, et c'était une des possibilités.
Oui, c'est ça. Et par exemple, en Afrique, il y a énormément d'artistes qui ont justement tiré parti, je pense à Madame Zo, par exemple, à Madagascar, donc qui a réuni toutes sortes de matériaux. Et donc ça, c'est, cette dimension de collage est extrêmement importante, et aussi du rapport au quotidien transfiguré, si on peut dire.
Et donc vous avez aussi fait une étude du textile actuel dans sur tous les continents, en fait.
Oui, alors, encore une fois, ce n'est pas le textile lui-même qui nous intéresse, hein, c'est ce que les artistes en font. Et effectivement, ce médium-là, évidemment, a tendance à mettre en valeur, et c'est tant mieux, des cultures qui, contrairement à la nôtre en France, ont un rapport au fil ou au textile traditionnel de longue date. Et donc, des artistes africains, ou pas que, hein, même des artistes plutôt asiatiques, ont une connaissance et une proximité avec ce médium depuis longtemps. Et on le retrouve en art contemporain sans inhibition. Alors qu'il faut aussi dire au passage qu'en France, nous sommes très en retard, parce que dans les pays anglo-saxons, ça fait un moment déjà qu'ils ont été capables de reconnaître que le fil a toute sa légitimité dans le domaine des beaux-arts. En France, on est réticents. Alors moins ces années-là, moins depuis le 21e siècle. Il vient d'y avoir quelques expositions très intéressantes à Paris, au Grand Palais, à la Fondation Cartier. Donc tout ça se met en route. Mais en France, on rattrape un petit peu notre retard par rapport aux pays anglo-saxons, et il était temps, quoi. Voilà.
Et si on pense à la tapisserie, par exemple, voilà, on a dans la Transavant-Garde Beauty qui commande des tapisseries en Afghanistan. Et donc, on a la pensée théorique anglaise de la fin du 19e siècle, donc qui veut revaloriser l'artisanat, qui lutte contre la révolution industrielle. Et donc, ça paraît évident. Là, on a je pense à l'URSA. Par exemple, moi, c'était très étonnant, ces tapisseries dans des endroits quand même relativement pauvres, des achats de l'État de tapisseries de l'URSA dans des internats, tout ça, à l'entrée quand on était gosse, c'est-à-dire il y a 70 ans. C'était présent quand même.
Oui, tout à fait.
Comme une œuvre d'art, comme si ça avait été une fresque peinte.
Oui, c'est ça. Mais bon, avec l'URSA, ça a un petit peu étouffé aussi d'autres tentatives qui étaient beaucoup plus novatrices au niveau des techniques.
Ouais.
Hein, par exemple. Donc ça, il ne faut pas non plus... L'URSA a un petit peu mis entre parenthèses d'autres...
Il était aspects. Dominant
il était
sur le
dominant.
Marché.
Ouais, oui. Il y avait Picard Ledoux aussi, c'était un peu le couple ouais. des tapissiers. Enfin, parce qu'en plus, c'est vrai que par la suite, les artistes qui ont pratiqué le fil le faisaient eux-mêmes et ils ne faisaient pas interpréter, disons, par des lissiers, etc. Enfin, c'était...
Mais si on pense à l'abstraction lyrique, on peut l'avoir toute en tissu, avec des déclinaisons.
Oui, évidemment.
Hein, on peut imaginer Hartung, Soulage, n'importe lequel d'entre eux, dans une déclinaison sur du tissu.
Oui, mais c'est un peu une transposition.
Le côté décoratif était déjà dans la peinture.
Oui, c'est ça.
Si on ne porte pas de jugement de valeur sur la notion d'art décoratif.
Mais ce qui est intéressant aussi, ce sont des artistes qui vraiment passent directement... Enfin, c'est-à-dire qu'ils s'expriment directement avec le fil et non pas par l'intermédiaire d'une sorte de maquette qu'ils livreraient ensuite à
un exécutant.
Alors moi, j'avais vu en tout cas une des biennales de la tapisserie dans les années 70 à Lausanne, et c'était extraordinairement ludique. Mais ça montre aussi la portée de mes préjugés. Mais j'arrive et il y a une grande tapisserie qui représente des boîtes de sardines portugaises, par exemple. Donc le design des boîtes de sardines. Et moi, ça me mettait en joie. Et puis Abakanovic, c'était la vedette à l'époque, et le fait de lier, enfin bon, il y a aussi...
De mettre en relief, quoi, hein, surtout,
oui,
ça vient, on entre véritablement dans le domaine de la sculpture, là, avec ces artistes qui viennent de l'Europe de l'Est, et que l'URSA ne voyait pas forcément d'un bon oeil,
ouais.
Parce que ça perturbait un petit peu son hégémonie, et puis sa façon de voir le traitement du fil, et puis cette arrivée des femmes dans ce domaine, tout ça le perturbait étrangement.
Mais hein. On peut penser à n'importe quoi, on voit les extensions textiles, par exemple, Vassarelli, le Hobart, ça paraît totalement évident.
Mmh. Oui, absolument.
Hein, on voit, je sais pas, de la moquette. C'est évident, quoi. Mmh. De la moquette sur les murs, je veux dire.
Mmh.
C'est un matériau qui est là, quoi. Il faudrait articuler ça, d'ailleurs, sur la mode, la place que ça a pris, le développement.
Notamment
reprendre avec Poirier.
Oui, puis avec Sonia
de
Launay. Sonia de Launay, ça a été vraiment une espèce d'explosion par rapport à la mode, par rapport aux vêtements. Parce que bon, il y a effectivement ce rapport évident entre le textile et le vêtement. Et donc ça a été quand même très, 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 très travaillée par un certain nombre d'artistes.
Et quels sont, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme temps fort dans le livre qu'on est en train de manquer ?
Alors, moi, j'ai traité plutôt ce qu'on appellera la deuxième partie, qui démarre à partir de ce qui s'appelle dans le livre « Le militantisme artistique ». C'est-à-dire que j'ai abordé les artistes qui donnent à leur travail un autre sens que purement esthétique, donc qui peut avoir des résonances sociales, politiques, économiques, sans que nous oublions, loin de là, la qualité esthétique des propos. Et donc, si au départ, on a dans la première partie un peu une approche historique des avant-gardes dans le domaine Beaux-Arts, la deuxième partie aborde des artistes plus engagés. Alors, l'art engagé, entre guillemets, en France, n'a pas très bonne presse, mais j'espère que je permets aux gens de revoir un peu les stéréotypes, l'idée un peu stéréotypée qu'on a de l'art engagé, parce que j'ai cherché à montrer justement que ça ne perturbait pas ou que ça ne dévalorisait pas le résultat esthétique des travaux, et donc à travers des thèmes comme bien sûr le féminisme, hein. Alors des années 60-70 jusqu'à aujourd'hui, évidemment dans la mesure où ce matériau a été longtemps réservé aux femmes dans le domaine domestique et des arts appliqués, et que tout d'un coup il surgit, enfin pas tout d'un coup mais en tout cas il trouve sa place à force de lutte aussi, hein. Dans les années 70, ça ne se fait pas tout seul, à force de lutte des femmes pour qu'elles prennent leur place. Ce basculement est intéressant. Il y a des thèmes, évidemment. Alors, un des thèmes sur lesquels les artistes textiles peuvent se pencher et dont ils peuvent s'emparer, c'est l'écologie. Parce que l'industrie textile est une des plus polluantes sur la planète. Et que donc, si elles veulent avoir une démarche plus pensée sur ce plan-là, voilà, donc c'est pas difficile, au sens où elles peuvent chercher non pas des textiles issus de la pétrochimie fabriqués en Chine, mais des textiles naturels, des fibres naturelles. Elles peuvent travailler avec des artisans qui essayent de maintenir des traditions artisanales, qui essayent de maintenir des formes de teinture naturelle. Voyez, il y a tout un travail sur les conditions de production de leur œuvre qu'elles cherchent, où elles cherchent à être en cohérence avec leurs idées et les conditions de production de leur travail. Et donc c'est intéressant, cette forme d'engagement m'a personnellement intéressé.
Parce que si on remonte...
Merci, on va devoir arrêter.
Ah d'accord.
Et on va écouter Lucienne Perry qui nous présente une exposition d'art brut qu'elle fait à Genève actuellement, à l'église de la Réforme.
Je présente une nouvelle exposition à Genève, au Musée international de la Réforme, une exposition qui s'intitule « Voir l'invisible, l'art brut et l'au-delà ». C'est une exposition tout à fait particulière parce qu'en fait la thématique est particulière justement. C'est l'invisible, c'est l'au-delà, c'est la mort, c'est une forme de spiritualité pourrait-on dire, liée à l'art brut, qui n'a pas été énormément étudiée, qui a été peu mise en avant, et moi j'avais depuis quelques années en tête de présenter cet aspect-là de l'art brut. Là, dans cette exposition, je réunis 14 créateurs et créatrices qui, bien sûr, sont, comme nous tous et nous toutes, conscients de la précarité de la vie terrestre, conscients de la finitude de tout être humain. Et ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, eh bien, sont préoccupés, obsédés, même, je dirais, vraiment habité, hanté par la question de l'invisible, par la question de l'au-delà et de la mort. Eux, elles, disent qu'ils sont, elles sont en lien avec ce qui nous dépasse, c'est-à-dire avec des forces supérieures. Parfois, ils les appellent des esprits, parfois, ils disent que ce sont des défunts. Ils sont aussi en communion avec le cosmos ou alors avec la nature, disent-ils. Bref, tous ces liens les inspirent et ils créent donc des œuvres, des peintures, des sculptures, des broderies, des assemblages, des œuvres en fait qui incarnent justement leur quête de la transcendance. Des œuvres qui disent cet invisible, auxquels chacun et chacune se sont reliés. Ces créateurs et ces créatrices, bien sûr, ne pensent pas qu'ils sont des artistes, non. D'après eux, ils sont des émissaires, des messagers, des messagères. Ils sont reliés avec le divin, avec des divinités, avec des ancêtres, et eux ne sont que des vecteurs. Donc ce qui frappe quand on est dans cette exposition, eh bien, c'est la beauté troublante, je dirais, peut-être avant tout, la beauté troublante, inhabituelle de ces créations artistiques, et puis l'étonnante inventivité. Ces créateurs, ces créatrices, eh bien, ce sont des personnes qui sont des autodidactes, des gens qui n'ont pas suivi de formation artistique, hein, qui inventent. Vraiment, ce sont des inventeurs. Des inventeurs, ils inventent le sujet, le mode d'expression, la technique, l'usage des matériaux. Et ils inventent aussi une expression, un mode d'expression qui leur est personnel, qui leur est propre, et dont ils sont les destinataires. Parce que la plupart du temps, les auteurs d'art brut n'ont jamais l'idée de montrer leurs œuvres. Hein, ils n'ont pas besoin de reconnaissance, ils n'éprouvent pas le besoin d'une approbation. En fait, on pourrait dire qu'ils créent par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Attention, bien sûr, l'art brut, ça n'est pas l'art des malades mentaux. Hein. Certains font l'objet, bien sûr, d'un diagnostic psychiatrique, mais d'autres n'ont jamais franchi le seuil d'un hôpital, d'un asile. Ce sont plutôt les évincés de notre société, des gens qui n'ont pas eu le droit à la parole, qui s'emparent de ce droit et qui vivent et qui créent dans la marge, hors des sentiers battus. Alors, dans l'exposition que je présente, eh bien, beaucoup d'œuvres surprenantes, en fait, à commencer par cette femme Zemankova, Anna Zemankova. Il faut imaginer qu'elle crée des œuvres dont elle dit « Je fais pousser des fleurs qui ne poussent nulle part ailleurs ». Alors quand on est devant ces œuvres, effectivement, on se dit bien que ce sont des fleurs, mais pas seulement, pas que. On a vraiment l'impression qu'on a bel et bien affaire à des formes, effectivement, florales, végétales, mais aussi peut-être minérales, aussi aquatiques. On a l'impression qu'elle oscille, qu'elle hésite entre plusieurs règnes, ou alors peut-être même qu'elle tente de relier tous ces règnes. Et puis, elle forme une sorte de grand rassemblement cosmique, cosmologique. C'est étrange de savoir que Anna Zemankova travaillait la plupart du temps entre 3 et 4 heures du matin dans sa cuisine à Prague, sur la table de sa cuisine. Et elle disait qu'en fait, c'était à ce moment-là, dans le silence matinal, juste avant l'aube, qu'elle avait l'impression de pouvoir capter quelque chose d'étrange, d'irréel. Il y a quelque chose de troublant, il y a une sorte d'effervescence. Parce qu'on est aussi devant ses œuvres et puis on se dit, ah oui, on voit bien qu'il y a de grands tracés. Hein, elle crée avec des gestes très amples, mais aussi il y a des petits détails. Donc on est entre un geste très ample, très sûr, et puis un geste extrêmement fin, tout à fait sophistiqué. On entre dans un monde inconnu avec les œuvres de Zemankova, inconnu de nous, mais aussi d'elle. Elle dit en fait que lorsqu'elle crée, elle est proche d'une certaine extase. C'est le cas pour beaucoup de créateurs et créatrices d'art brut dans cette exposition. Jeanne Tripier, par exemple, eh bien, elle avait transformé sa chambre d'hôpital psychiatrique en une sorte de laboratoire. Elle se livrait tout autant à la peinture, à l'écriture, au dessin, à la couture, au crochet, à la broderie. Bref, on a l'impression qu'en fait, eh bien, elle investiguait. Elle c'était une exploratrice. Elle explore différents moyens d'expression artistique. Il n'y a pas de ségrégation parmi tous ces moyens d'expression. Par exemple, elle travaillait avec de la peinture et de l'eau, alors vraiment de la gouache, et puis avec plus ou moins d'eau. Donc comme ça, elle joue avec différentes manières de dissoudre la couleur, parfois énormément, parfois peu, puis parfois elle lance une petite poignée de sucre, donc ce qui fait cristalliser la peinture, qui fait un effet de cristallisation. Ça l'intéressait aussi. Elle se débrouille pour trouver des fils, des cotons, souvent des chutes de coton. Et puis, elle crée non pas de jolis petits napperons, comme toutes les femmes dans ces années-là, hein, juste après-guerre, avaient appris à le faire. Elle fait voler en éclats les règles du si bien nommé patron, hein, du canevas, des règles à suivre. Non, elle ne les suit pas, elle invente. Et c'est d'une manière volubile, avec laquelle elle se livre à ses créations insensées. Insensées, bien sûr, entendu dans le bon sens du terme. Puis il y a une autre femme aussi qui travaille le textile, dont je présente dans cette exposition à Genève au Musée international de la Réforme. C'est une femme qui a créé une robe tout à fait étonnante. C'est une pièce textile majeure. L'autrice, c'est Jeanne Laporte-Fromage. Elle aussi était internée en 1937. Eh bien, elle apprend la mort de son mari. Et ça va créer un choc. À partir de ce moment-là, eh bien, elle va décider de créer une robe d'apparat. Donc ce choc va déclencher chez elle le besoin de créer ce vêtement. Un vêtement qui sera destiné à honorer le couple et à célébrer aussi et à libérer l'amour et le monde, rendre le monde meilleur et l'apaiser. Alors, en fait, cette femme, eh bien, d'abord, elle travaille dans une sorte de clandestinité, une confidentialité. Elle travaille avec des fils, elle brode sur des petits rectangles, elle cache ces petits rectangles brodés dans différents lieux de l'hôpital, et puis petit à petit, un jour, eh bien, elle veut les assembler. Et puis, on l'autorise à le faire à l'hôpital, donc elle saisit cette opportunité et elle va créer une robe qui est très grande, qui est spectaculaire dans l'exposition. Elle est présentée à Genève et elle force vraiment à l'admiration. Il y a énormément de décors floraux, végétaux. Parfois, on a l'impression qu'on pourrait peut-être voir aussi quelques personnages. Cette robe était surmontée d'une coiffe, hein, surmontée aussi d'un dais. Il y avait aussi un sac, une cape, une traîne de plusieurs mètres. Bref, il s'agissait d'une cérémonie fastueuse à laquelle voulait se livrer Jeanne Laporte-Fromage. Elle allait pouvoir, avec tout cet ensemble textile, entrer dans l'au-delà pour entrer en relation avec son mari qui venait de mourir. Donc c'est une parure magique, d'une certaine manière. Elle allait pouvoir vaincre la mort. Cette parure allait lui donner accès à l'au-delà. L'au-delà, d'ailleurs, est présent chez plusieurs créateurs. Ataoko aussi, c'est le dernier dont je vous parlerai. C'est un créateur d'art brut ghanéen qui, lui, en fait, créait des cercueils personnalisés. Alors, j'en présente un dans cette exposition au MIR, Musée international de la Réforme, à Genève. C'est une étrange création, tout simplement parce qu'en fait, une étrange création, c'est un coq cercueil, un coq personnalisé. C'est ce qu'il a inventé en 1945. Ataoko est un jeune homme menuisier, et il invente des nouveaux cercueils. Un cercueil qui allait être en étroite relation avec la personne défunte. Alors là, en l'occurrence, je présente un cercueil coq, mais on pouvait aussi demander, selon la profession ou selon les affinités que l'on avait, un cercueil en relation avec soi-même. Par exemple, certains demandaient un cercueil en forme de poisson s'il était pêcheur. Eh bien, un jour, une ethnologue suisse, Regula Tschumi, fait une recherche sur les rites funéraires de sa communauté, la communauté de Ataoko, se rend auprès de lui au Ghana et lui demande des informations à propos de ses cercueils. Puis lui, évidemment, il est bien en peine de lui montrer ses cercueils puisque ces cercueils ont servi. Ils sont sans pieds sous terre. Ce sont des cercueils qui sont sous terre. Ils ont été ensevelis avec le défunt. Alors elle lui demande de les dessiner. Il ne sait pas dessiner, il n'a jamais appris à dessiner. Il est bien capable de créer des cercueils en trois dimensions, mais pas de dessiner. Il est bien en peine de le faire. Elle insiste, et il va se lancer dans la création, non pas avec une intention artistique, mais avec l'intention simplement de répondre à cet ethnologue. Et puis, c'est le début d'une aventure créatrice absolument incroyable. On voit dans l'exposition tout le développement. D'abord, Ataoko dessine les cercueils que Regula Tschumi lui demande de dessiner. Et puis, petit à petit, il se désolidarise de ses cercueils. Il oublie ses cercueils, cette demande. Il perd sa mémoire d'une certaine manière et il se livre à la création juste pour un plaisir absolument extraordinaire. Et il va créer des œuvres où se mêlent l'homme, l'animal, des œuvres absolument extraordinaires. Et en fait, il s'est émancipé, cet homme a commencé à créer, il avait plus de 85 ans. Bref, cet homme s'est livré dans une sorte de vocation tardive à une création qui est hors norme. Voilà, c'est une exposition qui est présentée jusqu'au 1er juin à Genève, au Musée international de la Réforme. Je vous ai parlé de quelques-uns là, mais évidemment, il y a plusieurs autres que l'on peut découvrir. Tous sont en lien avec l'indicible, avec ce qui nous dépasse. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. L'important, c'est qu'en fait, ces œuvres sont prodigieuses, elles nous interpellent, et puis de toute façon, elles suscitent en nous des questions relatives à notre propre mort, à ce qui se passera ou pas après la mort.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Zig zig, la mort au canon se frappant une tombe avec son talon. La mort à minuit joue un air de danse. Zig zig zag sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre. Des gémissements sortent des tilleuls. Les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous le grand linceul. Zig zig zig, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. En couple lascif, face à sur la mousse, comme pour goûter dans une douceur. Zig zig zag, la mort continue de racler sans fin son aigle instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. Dame, dit-on, marquise ou baronne, et le père galant à pauvre charron, horreur, et voilà qu'elle s'abandonne comme si le reste était un baron. Zigue, zigue, zic, quelle sarabande, quel sacre de mort se donnant la main. Zigue, zigue, zac, on va dans la bande, le dragon va vivre auprès du filin. Pst. Tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh, la belle nuit pour le pauvre monde. Et vive la mort et l'égalité.
Magnifique. Donc nous sommes sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et nous venons d'entendre la danse des morts de Camille Saint-Saëns, c'est magnifique, parce que nous allons parler d'un livre extraordinaire dû à Vincent Wakenham qui est avec nous dans le studio et qui s'appelle « La mort dans tous ses états, danse macabre 1785-1966 » et qui est publié chez mon éditeur favori, l'Atelier Contemporain à Strasbourg. Bonjour, monsieur Wakenham.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez nous proposer une vision globale du livre d'abord ? Alors, son peut-être... poids, ses pages, le nombre de reproductions ?
Alors, c'est un gros bébé, puisqu'il fait 3,6 kg, qu'il contient 1000 images et 938 pages. Qui tente de montrer à quel point une forme aussi codifiée que la danse macabre depuis les 14e et 15e siècles a été revisitée, tordue, lessivée, retravaillée par des artistes contemporains, et ce, en y introduisant des éléments de modernité à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà l'enjeu, voilà le pari, et voilà l'objet que je vous propose.
Et donc oui, quand on lit votre livre, enfin quand on le... C'est un objet, c'est, on ne peut pas le lire, on est obligé de le vivre pratiquement quand on fréquente votre livre, quand on est dans votre livre. On s'aperçoit que tout permet une danse macabre. Un phénomène où une nouvelle chose apparaît, comme le chemin de fer ou les montgolfières, danse macabre. Une guerre apparaît, il y a une guerre, danse macabre, bien sûr, mais il y a une révolte sociale, danse macabre. Il y a ces danses macabres omniprésentes. Et il faudrait peut-être aussi qu'on dise que vous ne travaillez que sur des choses qui ont été imprimées.
Oui, l'idée, c'est, ça n'est pas de traiter du thème, par exemple, de la mort et de la femme, qui est un thème qu'on retrouve au 19e, qui était un thème récurrent. Dès lors qu'il n'y a qu'une seule image, et dès lors qu'elle n'est pas reproduite dans un portfolio, dans un livre, elle ne rentre pas dans mon sujet. Aussi parce qu'il fallait limiter son corpus.
Non, mais c'est bien aussi parce que ça montre que c'est des choses qui étaient répandues. On commence avec Hans Holbein et donc on va aussi voir toute l'évolution des pratiques pour faire créer des images, pour les reproduire. On part de la gravure et on va avoir toute l'évolution. Cette thématique va rester très présente et elle va finir dans la presse quotidienne même.
Oui, puisque c'est effectivement un élément très, très intéressant, c'est de voir que cette image qui existe dans la tête de chacun d'entre nous, même si on ne sait plus vraiment la situer, on ne sait plus vraiment quel est son poids religieux, puisqu'à l'origine c'était une façon de présenter la vie dans des moments où la peste, les différentes épidémies, mais aussi la guerre, la famine, a pu dévaster l'Europe. Il faut se souvenir que la France ne retrouve son niveau de population qu'elle perd entre le XIVe et le XVe siècle, elle ne le retrouvera que sous Louis XV. Donc il faut imaginer des villages entiers qui sont décimés. Et il faut donc imaginer qu'une société doive représenter cela à ses co-religionnaires. Sinon, c'est désespérant. Donc on crée dans toutes les églises et sur l'ensemble du territoire européen, on crée des danses macabres qu'on fait figurer dans les cimetières. Et par exemple, on va fêter cette année, enfin fêter le mois est fort, nous sommes en 2025, nous fêtons les 600 ans de la danse macabre des Saints Innocents. Les Saints Innocents, c'était donc aujourd'hui autour des Alpes, au Bourg, etc. On va fêter cette danse macabre qui a totalement disparu parce qu'à un moment, l'urbanisme a dévasté ces constructions. Elles n'intéressaient plus. À partir de la réforme et de la contre-réforme catholique, on ne veut plus voir ces images. Mais l'image, le principe de la mort qui vient chercher chacun d'entre nous dans une visée égalitaire, c'est-à-dire que on dit que la situation sur la Terre ne prône pas l'égalité, peu s'en faut. Mais après la mort, l'égalité va régner. On a entendu tout à l'heure la danse macabre de Camille Saint-Saëns, mais surtout avec, dans sa version courte, mais surtout avec le poème d'Henri Casalis, qui se termine par ces mots extraordinaires qui disent « Et vive la mort et l'égalité ». On est en 1871. Cette idée-là, les artistes vont s'en saisir et ils vont la faire perdurer tout au long des 19e au 20e siècle en changeant l'optique. Et notamment en France, où la danse macabre devient un vecteur éminemment social, de critique sociale. Et le premier numéro de l'Assiette au beurre, par exemple, va commencer une série de danse macabre. C'est très étonnant parce que cette forme sommeillait dans l'esprit de chacun. Et dès lors qu'on commence à s'y intéresser, à tirer les fils, on se rend compte qu'on en trouve énormément dans toute l'Europe. Alors, beaucoup dans le monde alémanique, Suisse, Allemagne, également en Belgique, beaucoup en France, mais par exemple, beaucoup moins en Amérique du Sud. Une posada qui est, à tout prendre, fait toute son œuvre est une danse macabre, n'a jamais fait stricto sensu de danse macabre. Aux États-Unis, il n'y a pas de danse macabre. Comme si la modernité de ce pays, à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui, la modernité de ce pays a exclu de sa mémoire cet élément qui, chez nous, est totalement structurant. Et ça, c'est passionnant à regarder.
faut faire du Max Weber, protestantisme, catholicisme, différentes tendances, Calvin, Luther.
Alors, tout à fait. Il y a des danses macabres qui sont bavaroises. La Bavière est au 19e une terre catholique. Et il y a des danses macabres qui sont du nord de l'Europe, qui sont des terres luthériennes. Et leur objectif n'est pas le même. Même leur visée de critique sociale n'est pas du tout la même.
Mais on peut, oui, si on pense aux Flandres, par exemple, effectivement, on voit un squelette, on voit une culture des danses macabres très présente, y compris chez les militants pacifistes, par exemple.
Et oui, puisque Mazerelle quitte, la Hollande, la Belgique ou la Hollande, j'ai un trou. Il quitte donc les Flandres, voilà, au début de la guerre de 14, attiré qu'il est par le groupe de Romain Rolland, Pierre-Jean Jouve et Edmond Bill. Il quitte donc les Flandres pour rejoindre les mouvements pacifistes qui se sont réunis à Genève. Et là, il crée, elle est très peu connue, une série de 5 bois ou linoléum, on ne le sait pas, qui sont totalement des danses macabres. Et c'est très étonnant.
Et donc, à chaque fois qu'il y a une invention, il y a le chemin de fer, on va avoir une danse macabre sur le chemin de fer, par exemple. Un train va dérailler et il y a des squelettes qui vont venir danser avec une faux.
Parce qu'il faut imaginer ce que représente un accident de chemin de fer. Les transports, je vais dire une banalité, se font à cheval avec des carrioles. Un accident de carriole, c'est certes impressionnant, mais ça n'a pas la puissance visuelle d'un déraillement. Les premiers accidents de chemin de fer, c'est vers 1850, provoquent la stupéfaction. Ce d'autant plus qu'à l'époque, les wagons sont fermés de l'extérieur. Donc les accidentés ne peuvent pas sortir. Si le feu prend au wagon, tout le monde meurt. Et donc ça frappe les gens. Et donc les artistes du temps, voulant représenter des danses macabres, vont représenter des accidents de chemin de fer avec la mort comme aiguilleur ou comme conducteur de train qui va pousser le wagon à la mort. Et cette différence avec les danses macabres du Moyen-Âge, où là la mort fait son boulot, elle vient chercher celui
c'est
qui doit
routine,
mourir,
ouais, c'est
la routine.
Routine.
Là non, la mort est agissante et donc on va pouvoir l'assimiler selon son obédience politique. Pour certains, la mort c'est, pour utiliser un vieux terme qu'on utilisait dans ma jeunesse, qui est le complexe militaro-industriel, on va dire que c'est la mort qui est au service du capital pour entraîner les masses laborieuses vers la mort, alors que si on est dans une visée plus sociale, plus libérale, on va voir par exemple la mort pousser la population à l'alcoolisme. Donc le message, on peut le décoder de tous les côtés.
Absolument. Et donc, c'est aussi cette omniprésence, enfin c'est un cliché, mais on invente le montgolfière et 2 ans plus tard, on a la danse de la mort, son montgolfière qui a craché.
C'est la danse macabre qui me sert de point de départ, voilà, qui est celle d'un artiste suisse protestant qui s'appelait Schellenberg et qui dessine en 1785 une danse macabre qui est totalement novatrice. On y voit une scène de suicide, alors que ça aurait été inconcevable que le suicide figure dans une danse macabre du Moyen-Âge. On ne peut pas l'imaginer. Lui, il la met en scène. Il met en scène un joueur de loto et il met en scène un accident de montgolfière. Donc on est en 1785. Se souvenir que la première ascension d'un ballon à air chaud en France, c'est en 1782 à Versailles, sous les yeux de Louis XVI. Cette immédiateté de représentation dans une danse macabre est stupéfiante.
Et donc on va la voir pour les... Alors là, c'est vraiment le fait divers par excellence, la croisière.
Alors la croisière, oui, les bateaux, un naufrage... Alors l'antériorité des naufrages est forte. Depuis la Bible, Jonas est mis hors le bateau parce qu'on craint qu'il ne fasse chavirer l'embarcation. Mais le pilote de bateau va devenir un élément du destin qui va faire précipité, notamment, souvenez-vous, il y a une très belle danse macabre populaire dans cet ouvrage qui montre la barque à Villequier, la barque où est donc la fille chérie de Victor Hugo. Ben, il la représente avec la mort conduisant cette petite embarcation qui va chavirer dans la Seine.
Et donc on a aussi des danses macabres avec des manifestations archaïques comme les duels.
Oui, le duel, le statut du duel a toujours été très particulier, puisque sous l'Ancien Régime, mais au XIXe aussi, on n'a jamais condamné quelqu'un pour un duel. Parce que la Vox Populi disait que celui qui a le courage de vouloir affronter celui qui l'a offensé en duel ne peut pas être condamné s'il met à mort son adversaire. La seule raison qui peut le voir condamné, c'est s'il est manifestement plus expert en armement que son opposant. Mais ces danses macabres vont représenter des duels en permanence, parce que pour le pouvoir civil, c'est un problème. On ne peut pas laisser des forces vives de la nation se trucider allègrement par biais de duels.
Il y a une image que j'ai trouvée très excitante, c'est une maquerelle qui présente une jeune fille
à
un personnage dans un fauteuil.
Elle est terrible.
Et la fille, elle est super bien réussie.
Elle est terrible.
Et il y a la mort derrière le vieux libidineux.
Alors la scène, effectivement, est terrible parce qu'elle représente un bon bourgeois affalé dans un fauteuil.
Bien crade, bien gros.
Bien gros, comme la presse à l'époque.
C'est l'opéra, quoi.
Le représentait de façon caricaturale. Et une mère maquerelle qui, elle, en fait, est la mort, mais on ne le voit que par son visage. La mère maquerelle vient présenter à ce monsieur une jeune fille nue, dans son simple appareil, charmante, faut-il le dire, mais qui va être l'instrument de la mort. Puisque on sent bien qu'elle porte en elle la syphilis, qu'elle va coller à ce bon bourgeois et que tous les deux vont mourir. Mais la scène est terrifiante.
C'est beau, c'est beau. Et il y a le jeu aussi. Il y a aussi un de mes dessins favoris, c'est une table de jeu, face.
Je vois que les perversions humaines vous chatouillent. Alors le jeu aussi, le jeu a été de tout temps un point de questionnement pour le pouvoir. Il faut se souvenir d'abord que les premières tombolas sont créées par l'État et par les ordres religieux pour recueillir de l'argent.
Ah, c'était déjà...
L'Église va très vite dire que dès lors qu'il y a possibilité de gain, le jeu est autorisé. Il n'est pas, en Occident, interdit. Mais enfin, lorsqu'il provoque dans les familles ruine, suicide, exil et désespoir, le pouvoir civil va s'y intéresser, ce aussi parce qu'il provoque du suicide. Donc il crée de la perturbation. Et ce qui est perturbant est vu d'un mauvais œil par toute forme de pouvoir.
Et donc il y a bien sûr tous les péchés, l'alcoolisme, l'avarice.
L'avarice est un thème traditionnel qu'on retrouvait déjà fortement dans les danses macabres du Moyen-Âge, aussi parce que le Moyen-Âge a provoqué, enfin vous vous souvenez des lectures, des ouvrages de Bakhtin sur le carnaval.
Sur Rabelais.
L'humour n'est pas du tout absent des danses macabres anciennes. Il y a notamment un dessin de la danse macabre de Bâle où on voit la mort venir chercher une abbesse. Et elle dit « Oh, j'aurais bien voulu vivre un peu ». Et lui, il lui soulève gentiment le vêtement monacal et il remarque qu'elle est enceinte. Alors il lui dit quand même, Donc ça, c'était quelque chose qui était vu, qui était représenté au vu et au su de tous, parce que ces danses macabres sont toujours des moments, comme toujours. Tout ce qui est lié au pouvoir a toujours son pendant qui est du domaine de l'humour. C'est automatique. Et ces danses macabres ont donc véhiculé très tôt des formes d'humour et des formes de sarcasme et des formes d'ironie qu'on va, lisez Rabelais, enfin, qu'on va retrouver dans ces productions plus contemporaines.
Alors je vais essayer de la faire très vite. C'est Borges et Burroux qui la relaient. C'est dans Les Mille et Une Nuits, le grand vizir envoie son chambellan faire des courses, il va au marché, il voit la mort, il revient tout blanc, et il demande au grand vizir, est-ce qu'il peut aller à Damas? Et le grand vizir lui dit oui, mais il est quand même intrigué, il va au marché, puis il voit la mort. Et il lui dit, pourquoi tu as fait peur à mon chambellan. Mais je ne lui ai pas fait peur, mais j'ai été étonné de le voir là, parce qu'on a rendez-vous ce soir à Damas.
Très joli.
Donc, et on voit le dessin. Hein. Et on voit le dessin. On voit le dessin. Et donc, oui, donc, qu'est-ce qu'on n'a pas traité là? Il y a toutes les religions, le clergé, ça c'est pas mal du tout.
Le clergé, il est quand même moins présent que dans les danses macabres anciennes, puisque les danses macabres anciennes, ce sont des suites de personnages qui suivent la hiérarchie du temps. Donc la farandole d'humains est représentée d'abord par le pape, puis l'archevêque, puis l'évêque, puis l'empereur, puis le roi, puis la reine, quand il y a des femmes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on trouve tout à la fin de la farandole, le laboureur et le commerçant. Voilà. Alors bien évidemment, le pouvoir religieux étant par nature tout de même prégnant, voire insupportable, il est normal qu'il soit vilipendé et montré du doigt dans ses danses macabres.
Alors, à propos de Belgique, j'ai repensé à Michel de Gelderode.
Bien sûr.
Donc là, la mort était un personnage et c'était totalement intégré.
La pièce de théâtre de Gelderode, qui a été d'ailleurs mise en opéra, si mes souvenirs sont bons,
par Ligeti. Mais il s'est lassé en la faisant, il a préféré le Père-Ubu, en fait.
Et il a préféré le Père-Ubu.
Donc, en travaillant, et ça lui a paru quand même très...
Mais la danse macabre de Gelderode, elle est très étonnante, puisque c'est une totale fiction. C'est un individu de la société qui, soudainement, j'allais dire à la Trump, se prend pour le roi du monde.
Absolument.
Et commence à décimer autour de lui.
Et donc, on a le tramway aussi.
Tramway, on a parlé tous les éléments de la
mobilité. Tout ce qui existe, l'automobile.
Mais également cette très...
La bicyclette, c'est fascinant.
La bicyclette, parce que la bicyclette qui, pour nous, aujourd'hui...
Représente la santé. Est à
mettre du côté du bien. Personne, aujourd'hui, n'oserait dire qu'une bicyclette, que celui qui roule en vélo, est un méchant garçon. Et là, la mort vient... empêcher la bicyclette, vient pousser le cycliste, vient provoquer sa chute dans le ravin. Ce sont des images extrêmement réjouissantes.
Et comme si la bicyclette n'était pas naturelle, en fait, que c'était une transgression de la nature. Et on a des stigmatisations donc, de la bourgeoisie, du capitalisme, de la des curés, de la franc-maçonnerie, du parlementarisme et bien sûr des juifs.
Oui, alors on va dire là... La critique sociale que vous citez, elle est fortement spécifique aux danses macabres, soit anglaises du tout début de siècle, Rolandson, que vous connaissez, cet artiste qui est magnifique.
Voilà,
Rolandson, c'est du Hogarth encore plus méchant. Bon. Donc cette critique-là, elle est spécifique plutôt au monde anglais du début du siècle, et au monde français du troisième tiers du 19e, où là, et on parlait précédemment des techniques, l'usage de la lithographie ou de la zincographie, que suivent ces danses macabres? Parce qu'elles suivent toujours les techniques du moment. Elles s'adaptent toujours à ce que les techniques offrent de plus novateur, ce pour assurer la plus grande diffusion possible des images. Il faut se souvenir des tirages de l'assiette au beurre. Ou de L'Homme du Jour, qui était une publication très, très, très sévère, va connaître un développement parce que les techniques permettent une plus large diffusion. Donc ça, c'est aussi un signe de ces danses macabres. Mais cette critique sociale, elle est plutôt spécifique à la France, alors que dans le même temps, vont perdurer des danses macabres plus conventionnelles dans le monde germanique. Puis il va y avoir la guerre de 14, qui va provoquer une floraison de danses macabres, ce dont tous les pays...
À juste titre.
Il y a une danse macabre magnifique, j'ose le terme, qui est due à un dessinateur suisse qui s'appelle Bill, qui avait comme projet d'illustrer la danse macabre de Pierre-Jean Jouve. Les choses ne sont pas faites, voilà. Mais ces planches sont d'une férocité qu'on n'imagine pas. Aujourd'hui, une presse aussi, critique par le dessin, aujourd'hui n'existe simplement plus. Les temps étaient à une sorte de liberté qui est bien plus grande qu'aujourd'hui.
Bon, on a quand même eu l'affaire Charlie Hebdo.
Oui,
Oui, mais on ne va pas rentrer là-dedans.
À
un moment, il y a au niveau technique aussi ces ombres chinoises. Là. Ça marcherait très bien. Comment vous décrivez ça?
Des silhouettes.
En silhouette noire, la danse.
Il y a une danse des.
En continu, là, ils se donnent la main. Et ça descend, ça fait penser à une bande dessinée, en fait.
Ça m'a permis de revisiter. Le personnage du comte ou du baron, je ne sais plus, de Silhouette, qui était un ministre de Louis XV. Donc Silhouette, c'est son nom. Bon. Et cet homme, c'est drôle, parce qu'il avait deux envies dans la vie. C'était un, de limiter les prérogatives financières de la noblesse en tant que financier, il n'a pas tenu très longtemps. Il a fait 6 mois, et puis après, on lui a demandé de rentrer chez lui. Et il avait une deuxième passion, qui était de découper des profils humains, avec son petit couteau, comme un canivet, et de faire ce qui va être une floraison en Europe. Tout le monde va faire des
silhouettes.
Des silhouettes. En Allemagne, vous pouviez avoir un artisan qui faisait des silhouettes dans chaque petite ville, ou en Angleterre, dans les villes d'eau, il était d'usage de faire son portrait en silhouette et de l'offrir à sa bien-aimée, et inversement. Et donc ça m'a amusé de voir une danse macabre faite, enfin, il y en a deux, faites uniquement selon cette technique de la silhouette. Une famille pouvait se faire, qui n'avait pas les moyens d'avoir un portrait de famille peint par un artiste, se faisait découper sa silhouette avec femme et enfant en noir qu'on mettait au mur.
Alors, ça me fait penser, la semaine passée, on a parlé des masques mortuaires dans cette émission. Il y a un garçon qui a écrit un livre sur le masque mortuaire d'Hegel.
Oui.
Hegel est mort du choléra. Et donc, ça n'était pas crédible qu'on ait fait un masque mortuaire de Hegel, puisqu'il était mort du choléra. Et il y a eu un gros marché du faux masque mortuaire, et particulièrement dans le domaine germanique, où ils adorent ça.
Oui, bien
et
sûr.
Donc, et il y a aussi, après, Goethe, par exemple, lui, s'est fait faire son masque de son vivant. Oui. Donc, il y a un marché de la mort, comme oui. Un fétichisme de certaines choses qui ont à voir avec la mort. Alors, mort, image, memento mori. Ça tombe sous le sens.
Ça tombe sous le sens aussi, se souvenir qu'au Moyen-Âge, la bonne mort, ça n'est pas la mort immédiate. On a changé totalement de paradigme. La bonne mort, c'est celle que l'on prépare. On est chez soi, à la maison, on reçoit sa famille, on reçoit ses amis, on se met en conformité avec ce qu'on pense être son avenir. On n'a pas du tout la volonté, comme aujourd'hui, de se dire qu'une bonne mort, c'est une mort immédiate. Non, la bonne mort, c'est celle que l'on prépare. Donc, ça donne lieu également, pour les éditeurs, à des publications sans fin pour se préparer, et ça de tout son vivant, à la bonne mort. L'angoisse, par exemple, pour un chevalier en tournoi, c'est de mourir en tournoi. Parce que ça n'est pas une mort préparée. Donc, l'Église va lui préparer une sorte de kit de survie en lui donnant l'absolution avant qu'il aille sur le champ de bataille. Parce que ça posait un problème où la chevalerie ne voulait plus participer aux croisades parce qu'elle disait « je vais mourir sur place ».
Excellent.
Et je ne serai pas préparé. De la même façon, la pire des morts, c'est celle, pardonnez-moi, dans un bordel. Mourir en commettant l'acte de chair, c'est en enfer direct. Donc ça devient des problèmes sociaux, mais également toute une littérature qui va se développer et avec des petites images, des bois où on voit le futur défunt entouré de sa famille, réglant ses problèmes, etc. Toutes choses qui n'existent plus aujourd'hui.
Et donc vous êtes à Paris, là, vous habitez à Strasbourg, je crois.
Oui.
Et ce soir, vous allez faire une signature de votre livre magnifique à la une. À l'écume des pages.
Ouais, à 19h.
Oui, oui. À 19h à Saint-Germain-des-Prés.
Voilà,
oui, on vous invite à aller voir l'auteur et son livre qui pèse 3,7 kg.
3,7 kg, voilà.
Et j'en profite pour remercier les gens qui étaient derrière la vitre, Didier Robert et Séphraim Famille. Merci à vous. Et donc, qu'est-ce qu'on a manqué? Il y a des morts compatissantes et consolatrices, il y a victoire de la mort et victoire sur la mort. Un dernier mot sur la mort?
Alors, victoire de la mort, c'est celle où la mort vient dévaster la société. Et la victoire sur la mort, c'est la victoire chrétienne. Puisque normalement, dans une iconographie chrétienne, la dernière scène est celle de Holbein de 1538, qui a été publiée dans cette bonne ville de Lyon. imprimé dans cette bonne ville de Lyon, Lyon étant à l'époque le centre d'impression le plus important d'Europe, se termine par une scène de résurrection. Donc des danses macabres catholiques vont s'achever par une image de résurrection et par la victoire sur la mort. Voilà. Les temps modernes ayant mis au placard la résurrection, préfèrent la victoire de la mort.
Et donc, merci. Nous avons parlé de la mort dans tous ses états, modernité esthétique, des danses macabres, 1785-1966, l'atelier contemporain. Éditeur, signature ce soir à l'écume des pages à 19h, et nous allons entendre le générique de fin. Et c'est pas celui-là.